R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Le désert en éveil en français, lorsque les non-lieux deviennent des événements, je voudrais juste corriger pour ceux qui ont, pas beaucoup d'ailleurs, en anglais, le programme et qui est au cœur de notre affaire ici. Ça a été traduit par, Waking the Desert. Le désert en éveil en français, c'est le désert qui est l'agent qui se réveille et qui est éveillé. Et il ne s'agit pas justement pour nous de réveiller le désert. Il est bien vivant. C'est le cœur de la question, comme a été très bien montré par Valérie et puis Diego, et de tous cette question autour des droits de la nature. Parce que qui donne des droits? Est-ce que c'est à nouveau nous, le système occidental juridique, ou bien est-ce que le monde d'aujourd'hui nous oblige à se mettre à l'écoute de la loi de tout ce qui vit, qui n'était pas reconnu par nous depuis une période récente, à vrai dire, parce qu'en Occident même, bien avant l'instauration de la logique dite naturaliste qu'évoquait Diego, dans laquelle nous vivons, en réalité, il y a beaucoup de résurgences, d'autres manières de penser qui ressemblent à d'autres choses qui existent dans le monde. Alors, j'ai été conviée à commenter Geontologies avant sa publication en 2016, lors d'un séminaire avec Elisabeth Povinelli au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France où je travaille. Je souscrivis alors avec enthousiasme à sa critique de l'impact ravageur de ce qu'on appelle ici plutôt le néolibéralisme. Nous avions ce débat avec Elisabeth hier. Elle me disait, mais le néolibéralisme, l'expression, c'est pas tardif, parce qu'aux États-Unis, ça a commencé bien avant le tardif auquel je me réfère, dit-elle. Donc, en gros, depuis 2001, avec la destruction des tours de New York. Mais c'est que la pensée du néolibéralisme américain, tel qu'il était appliqué comme une forme d'impérialisme à travers le monde, ne se vit véritablement comme du libéralisme aujourd'hui chez nous que depuis une période beaucoup plus récente, parce que d'une certaine façon, dans ces années-là, les années 60 et 70, l'Europe s'en protégeait ou prétendait s'en protéger. Hein, mais ça, ça pourrait faire l'objet d'un débat. Et donc, je suis aussi enthousiasmée par sa démarche de réalisation de films, donc Elisabeth, avec les aborigènes du collectif Carabing, qui, avec une grande finesse et beaucoup d'humour, produit des récits entremêlant différentes interprétations, y compris ce qu'elle appelle la stratégie animiste. Et ce que vous pourrez voir ce soir à Kiasma, moi, malheureusement, je ne pourrai pas venir. Enfin, ce n'est plus Kiasma, c'est un lieu pour respirer. J'aimerais ici questionner autre chose, les trois figures interconnectées, l'animisme, le désert et le virus, que Povinelli mobilise pour cerner les projections de vie et de mort de l'humanité dans notre ère géologique taxée d'anthropocénique. Povinelli écrit « Le désert est l'espace où la vie fut, n'est plus, mais pourrait l'être, si les savoirs, les techniques et les ressources étaient bien gérés. L'imaginaire du carbone » est au cœur de cette figure et est donc la clé pour le maintien du géanto-pouvoir. Dans cette figure du désert, comme espace sans vie, ce sont les fossiles miniers qui, ayant perdu leur vie passée, promettent une vie future, informationalisée, qui réglerait le problème climatique. Cette vision évoque une réflexion de Deleuze. Je cite « L'essence de l'île déserte est imaginaire et non réelle, mythologique et non géographique. Or, une telle fable du désert imaginaire est pour bien des gens source de fantasmes et de violences, que ce soit lors des colonisations anciennes qui niaient et massacraient les habitants du désert australien, du Sahara ou du Sertão brésilien, ou le néocolonialisme actuel qui, depuis les essais nucléaires en Australie ou au Sahara, continue par l'extractivisme de désertifier tous les territoires pour exploiter toutes ces ressources fossiles, or, pétrole, gaz de schiste, uranium, bauxite. » Deleuze écrit dans l'île déserte, l'homme, dans certaines conditions, qui le rattachent au mouvement même des choses, ne rompt pas le désert, il le sacralise. Les hommes qui viennent sur l'île occupent réellement l'île et la peuple, mais en vérité, s'ils étaient suffisamment préparés, suffisamment créateurs, ils donneraient à l'île une image dynamique d'elle-même, une conscience du mouvement qui l'a produite, au point qu'à travers l'homme, l'île prendrait enfin conscience de soi comme déserte et sans homme. L'île serait seulement le rêve de l'homme et l'homme la pure conscience de l'île. Je saute. Alors, la géographie ne ferait plus qu'un avec l'imaginaire, dit Deleuze. Les aborigènes du désert vivent quelque chose de cet ordre. En appelant « dreaming », en train de rêver, leurs ancêtres animaux, plantes, pluie ou feu. Le terme « dreaming » Djukurpa pour les Walpiri et leurs voisins désigne aussi les itinéraires de voyage de ces derniers et les lieux « places » qu'ils incarnent dans le désert. Deleuze l'a compris à sa façon. Je cite, c'est dans « Critique et clinique ».« Un voyage réel manque par lui-même de la force de se réfléchir dans l'imagination ». Et le voyage imaginaire n'a pas lui-même la force, comme dit Proust, de se vérifier dans le réel. C'est pourquoi l'imaginaire et le réel doivent être plutôt comme deux parties juxtaposables ou superposables d'une même trajectoire, deux faces qui ne cessent de s'échanger miroir mobile. Toujours Deleuze, ainsi, les aborigènes d'Australie joignent des itinéraires nomades et des voyages en rêve qui composent ensemble, et il me cite dans « Du rêve à la loi », un entremaillage de parcours dans une immense découpe de l'espace et du temps qu'il faut lire comme une carte. C'est précisément dans l'interstice entre le géographique et le mythologique que j'ai fait l'expérience du désert comme un espace-temps à la fois imaginaire et physique, mais que les aborigènes, eux, appellent en anglais leur loi, law. La traduction du dreaming, the dreaming is the law. C'est pour ça que j'avais appelé ma thèse d'état qui est sortie au PUF après en 91, du rêve à la loi. Hein? Le rêve, l'espace-temps du rêve, qui est une géographie à la fois réelle et imaginaire, c'est la loi pour les aborigènes du désert. Soit à peu près une centaine de groupes de langues différentes, hein, puisque l'Australie, c'est à deux tiers un désert. Grâce à ces aborigènes-là du désert, les Walpiri et leurs voisins, j'ai appris à devenir un peu terre, comme eux, et à vivre selon leur loi du rêve. La question de l'origine ne semble pas essentielle dans la cosmovision du désert. Ce qui compte, c'est la reproduction des choses, des mouvements, l'actualisation des événements qui permettent de franchir un seuil. Guattari, à la suite de Varela, appelait cela l'inaction. Et c'est un petit peu le processus Pachamama que Diego nous a aussi décrit. Les aborigènes du désert ont théorisé des processus de rétroaction entre virtuel et actuel dans leur cosmopolitique du dreaming. Le dreaming, ING, en train de rêver, est un espace-temps où, plutôt que l'âge d'or d'une vision linéaire ou cyclique du temps, le mythe est parole performée dans le chant, la danse, la peinture et le film aujourd'hui, de chaque forme d'existant en acte dans un plurivers dont les mondes peuvent s'affronter à la surface de la Terre, mais aussi au ciel. Ainsi, Mars le corbeau poursuit les sept sœurs Pléiades, les meux géants dont les empreintes sur Terre sont identifiées aux dinosaures par les experts, et pour tous les aborigènes, le trou noir dans la Voie lactée. Et aujourd'hui, des astrophysiciens travaillent avec les aborigènes sur ce genre de savoir. Le serpent arc-en-ciel se fâche parfois en faisant trembler le sol contre les tentatives de forage minier, alors que d'autres entités de rêve en colère, serait responsable du cyclone qui, en partie, a détruit la ville de Darwin dans les années 70. Les déserts constituent les deux tiers de l'île continent australienne, habitée depuis au moins 60 000 ans par des peuples autochtones, indigenous, qui se différenciaient par des centaines de langues à la colonisation britannique au XVIIIe siècle. Ces déserts révèlent régulièrement les traces des plus anciennes occupations. Après avoir connu des volcans, des forêts et une mer intérieure, le continent s'est désertifié sur des millénaires. Les déserts abritent des carrières d'ocre ou de pierres à tailler, des plaines parsemées de plantes comestibles ou médicinales, des rochers ou des collines et une multitude de trous d'eau qui sont devenus des sites sacrés nommés, trous d'eau qu'il faut aller chercher bien en profondeur. Chaque peuple s'est identifié avec certains de ces sites reliés par des itinéraires de chants et de mythes qui maillent tout le continent. Les semi-nomades ont sillonné les déserts dans une relative abondance de vie. à la mesure de leurs désirs, mode d'existence qui s'est en partie effondré avec la violence de la colonisation et leur sédentarisation forcée dans les réserves. Pour le désert, c'est plutôt les années 50 que ça commence, donc assez récent. L'expérience aborigène m'a appris à voir le désert australien comme un archipel, un réseau de lieux toujours en émergence de vie, un espace-temps à la fois imaginaire, physique et spirituel, corporel et minéral, où l'on apprend à se transformer en devenir lieu, devenir animaux, plantes ou eaux. Autrement dit, ce qui, pour le regard occidental, apparaît comme des non-lieux, non-places, s'avère être, pour les habitants aborigènes, des lieux en devenir, becoming places, avec des toponymes correspondant à des récits d'événements passés, réactualisés au présent, par les pratiques qui s'y déroulent, les rituels qui les célèbrent, les rêves qui les visitent. Ces supposés non-lieux sont aussi source de revirtualisation d'événements futurs. En retournant à la Djamano récemment, les femmes m'ont expliqué pourquoi, dans le désert Tanami, où pullulent les explorations minières, il n'y a plus de grandes plaines de tomates sauvages. Dans les années 80 et 90, quand les fruits étaient mûrs, on partait les récolter. Les femmes Walpiri s'y réunissaient pour en faire la récolte et mettre aussitôt à sécher sur des brindilles les tomates vidées de leurs graines. Comme elles ne le font plus à si grande échelle, pouvaient remplir un camion entier avec une tonne de ces tomates en une semaine. Donc comme ça ne se fait plus à si grande échelle, il n'y a plus assez de graines qui tombent sur le sol pour multiplier la pousse des arbustes à tomates. Donc ici, l'explication n'est pas du tout associée aux mines. Elle est associée à l'agentivité des femmes ou alpiri, puisque c'est elles qui collectent, vis-à-vis de leur territoire, qu'il y a rupture de ce lien-là. De telles vendanges sauvages et le stockage d'une espèce végétale parmi des centaines d'aliments du désert sont un exemple de ce que l'anthropologue canadienne Sylvie Poirier a joliment appelé les jardins du nomade. Les aborigènes du désert prenaient en effet soin de la terre par diverses techniques, y compris les feux de brousse contrôlés et des rituels chantés et dansés pour que les terres du désert vivent d'une multitude de petits événements. Les actions des humains réactualisaient les lieux marqués par les événements de leurs ancêtres hybrides, animaux, plantes, feu ou pluie, qui, en chantant, ont nommé les lieux tout en y laissant leur empreinte ou un bout de leur corps qui s'est métamorphosé en pierre ou en eau. Le désert des Walpiri et de leurs voisins que j'ai rencontrés n'est pas celui de la figure proposée par Povinelli, qui travaille avec des aborigènes de la côte nord. Les groupes côtiers australiens peuvent se définir comme « coastal people », par contraste avec ceux qu'ils appellent « desert people », affirmant à la fois leur singularité respective et leur lien d'alliance. « Same but different », disent-ils en anglais. La différence est nécessaire à la reproduction d'échanges millénaires entre des entités dont l'hétérogénéité se réinvente sans cesse à l'image de l'hétérogénéité du vivant. Alors, à ce titre, pour les hommes et les femmes de la côte, le désert est peut-être moins vivant que leur milieu marin et forestier qui pullule de formes vivantes qu'ils et elles ont nommé, chanté et utilisé pour leur survie. Tout comme pour les hommes et les femmes du désert, les terres côtières sont moins vivantes que leur désert qui les nourrit et les inspire depuis la nuit des temps. Habitants des villes, héritiers d'une littérature exotique imbibée de l'esprit de conquête, nous sommes aussi un peu formatés par l'héritage d'un imaginaire de l'océan et de ses îles rêvées comme déserts. La Terra Nullius, terre vie supposée vide dans le droit, qui a justifié toutes les colonisations, même au cœur des forêts. Les îles supposées désertes de l'océan, comme les déserts et forêts déclarées inhabitées sur les continents, continuent à faire fantasmer les nouveaux conquérants. Toujours en quête de terres vierges à violer, quitte à les désertifier en les asséchant ou en chassant, tuant ou faisant s'entretuer les populations. Les explorateurs actuels débarquent en multinationales qui percent les sols de trous pour en extraire toutes les énergies fossiles et les veines de minerais qui les parcourent. Ils détournent l'eau nécessaire au forage de chaque puits de gaz de schiste ou pour refroidir les kilomètres de machines qui stockent nos big data dans les déserts ou les territoires dits périphériques, appelés aussi des déserts, quand leurs habitants sont ignorés à quelques kilomètres d'ici, à Paris. À sa figure du désert comme matière inerte de la non-vie, Povinelli oppose celle de l'animiste qu'elle définit comme tous ceux qui voient une équivalence entre toutes les formes de la vie et qui peuvent voir la vie là où d'autres ne verraient que le manque de vie. De nombreux peuples autochtones reconnaissent une vie aux rivières, à certaines pierres ou à la terre, comme il a été évoqué avant, mais ces formes d'animisme attirent des courants néo-païens, mais aussi certains philosophes, thérapeutes, architectes, paysagistes ou artistes aujourd'hui. Une exposition d'art contemporain itinérante en Europe dans les années 2010-2012, intitulée « Animism », comprenait entre autres l'installation « Assemblage » sur deux écrans superposés qui montraient des archives et des entretiens. Enfin, « assemblage », c'est en anglais « assemblage », mais en français, en fait, c'est « agencement ». C'est comme ça que ça a été traduit. Hein. Deleuze et Guattari, leur concept d'agencement a été traduit par « assemblage ». Donc, ces deux écrans montraient des archives et des entretiens, dont le mien, filmés par Angela Melitopoulos et Maurizio Lazzarato, en hommage à Félix Guattari. L'analyste et co-auteur de plusieurs ouvrages avec Deleuze parlait d'animisme, aussi bien pour des patients de la clinique de Laborde, où il exerçait, que des aborigènes du désert, au sujet desquels nous avons beaucoup échangé. L'anthropologue français Descola restreint en revanche le terme « animisme » à une ontologie qu'il a observée chez des Amérindiens de la forêt, soit une continuité au niveau des intériorités des humains et des non-humains et une discontinuité entre leur physicalité, qu'il oppose de manière inversée, comme l'a montré aussi Diego tout à l'heure, au naturalisme du discours scientifique et juridique classique, qui n'est plus celui défendu par Valéry. C'est-à-dire continuité des physicalités entre les humains et les non-humains, hein, nous sommes des animaux, et discontinuité des intériorités, les humains ne pensent pas comme les animaux, ou les animaux ne pensent pas. Les aborigènes se rangeraient, selon Descola, dans une troisième ontologie qu'il dit totémiste, avec une continuité tant entre les physicalités que les intériorités humaines et non humaines. Alors que des sociétés mésoaméricaines ou africaines qui pratiquent la divination relèveraient à l'inverse d'une ontologie analogiste, qu'évoquait donc Diego dans cette négociation entre les trois ontologies où il ne parlait pas de totémisme. Donc, ce processus de définition de la nature comme terre-mère vivante dont Diego nous a parlé dans les constitutions de l'Équateur et la Bolivie, qui ont inspiré le mouvement transnational contre l'écocide et pour les droits de la nature des fleuves ou des montagnes comme entité vivante dont a parlé Valérie, intéresse aussi des aborigènes. Mais ça, on pourra en parler au moment du débat, parce que avec un statut différent de ce qui nous a été expliqué par Valérie et Diego, il y a eu la reconnaissance comme entité vivante d'une rivière en Australie, la Birrarung, par le Parlement du Victoria, mais pas comme personnalité juridique, et c'est très important la différence. Et ensuite, il y a une longue bagarre d'une aborigène qui s'appelle Anne Paulina, dans le Kimberley, le nord-ouest de l'Australie, pour faire reconnaître aussi comme entité vivante et peut-être personnalité juridique la Fitzroy River qui traverse le Kimberley. On y reviendra dans le débat. Je continue. Si la quadripartition ontologique de Descola a le mérite de désuniversaliser l'imposition entre nature et culture, qui est notre paradigme dans lequel on est un peu coincé, elle ne semble pas opératoire dans une approche à la fois historique et dynamique de ce que l'anthropologie a appelé le totémisme chez les aborigènes, et qui aujourd'hui fait tenir leurs revendications face au libéralisme tardif. J'ai montré ailleurs que l'ontologie aborigène semble changer selon le contexte, ce que les Walpiri du désert théorisent comme un aller-retour nécessaire entre dessous, le virtuel, et dessus, l'actuel. Par dessous, dans le virtuel, l'ontologie Walpiri semble privilégier la continuité, mais par dessus, dans l'actuel, l'ontologie valorise la discontinuité, donc dans un sens quasiment analogiste. Ce paradoxe de la tension ontologique entre continu et discontinu, qui est au cœur de tous les rituels des peuples du désert et aussi du Kimberley, est un aspect de ce que j'appelle le paradigme aborigène. Il me semble nécessaire de sortir des catégories ontologiques pour appréhender le processus d'hybridation divers que les peuples résistants inventent. Dans le cas australien, on assiste à un déploiement d'identités à polarité multiple, tension et attracteur, conjugaison et disjonction d'altérité dans un réseau dynamique et ouvert. En 40 ans de rencontres extraordinaires avec des aborigènes en Australie, j'ai vu et entendu à maintes reprises l'affirmation de différentes formes d'incorporation des esprits dans les corps humains ou non humains, dans la Terre, et d'incorporation de lieux particuliers par des humains. Je suis tel lieu, rocher ou source, dit une femme Walpiri, qui pourra aussi se dire de plusieurs lieux à la fois et d'une constellation de rêves totems animaux ou plantes qui leur sont associés. Si un aigle est blessé par un chasseur, une femme du rêve aigle pourra dire « je suis blessée » car elle ressentira la blessure de l'aigle. Comme vous avez vu dans le petit film présenté au début, le fait que si on ne referme pas à l'inverse le trou laissé pour une cérémonie de fumigation dans la terre, la mère du bébé qui a reçu un rituel de fumigation rituelle peut être malade dans son ventre. Hein? Voilà. Et lorsque la terre est creusée par des compagnies minières en détruisant un site sacré, les gardiens de ce lieu diront souffrir dans leur chair, car ils partagent l'identité du rêve totem qui s'y matérialise. La terre, ma chair. Ce ne sont pas des métaphores. Ce ne sont pas des métaphores. Ni une confusion entre l'imaginaire, le rêve et le réel. Il s'agit, dans ces énoncés aborigènes, de l'affirmation d'une subjectivité vécue qui fait exister les gens dans des territoires auxquels ils appartiennent et les rend souverains. Cette souveraineté, malgré toutes les horreurs de la colonisation, ne leur a pas été enlevée, car elle est inaliénable. Même si la colonisation et ses politiques successives ont cherché à laver le cerveau, brainwash, des gens pour que leurs repères existentiels ancestraux disparaissent physiquement sur le territoire et spirituellement dans leur corps, la marque des engrammes ancestraux habite leur inconscient et advient parfois par les rêves que la tradition décryptait sous forme de chants de peinture et de danse. Il arrive que des aborigènes qui ont perdu leur langue respective ont été déplacés de leur territoire et ne pratiquent guère ou peu de rituels, fassent l'expérience de messages en rêve. D'ailleurs, ces messages peuvent venir aussi à de non-aborigènes. Pour la plupart de nombreux groupes linguistiques d'Australie, la terre parle. Et on peut l'entendre dans son sommeil ou à l'éveil. Non pas la terre en général, mais le lieu où l'on est, où l'on dort. Les oiseaux parlent et, selon certains récits, ont appris aux humains à parler. Le tonnerre dit aux faiseurs de pluie ce qu'il convient de faire. Le vent conseille les guérisseurs. Et avant de couper un arbre, on lui parle pour dire qu'on a besoin de bois pour un feu ou fabriquer un outil. Aileen Moreton Robinson, professeure d'études autochtones, écrit en tant qu'aborigène. La relation ontologique s'opère par l'intersubstantiation des êtres ancestraux des humains et de la terre. C'est une forme d'embodiment. Incorporation ou encorporation. Toutefois, le régime légal de l'État privilégie d'autres pratiques et signes sur nos corps. C'est parce qu'au soubassement de ce régime légal se trouve l'ontologie occidentale, dans laquelle le corps est théorisé comme séparé de la terre et sans rapport avec la manière dont les subjectivités, les identités et les corps sont constitués. Mais cette ontologie indigène n'est pas pour autant effacée. Donc c'est pas moi juste en tant qu'anthropologue qui dis ça. Hein, c'est bien ce que répètent tous les aborigènes. Morton Robinson s'appuie sur cette notion d'embodiment qu'on peut traduire donc par aussi incarnation. Le corps ne se réduit pas à un habitacle de l'esprit, mais est pensé comme sans cesse transformé par l'esprit, ou plutôt les esprits. Ce qu'elle appelle une subjectivité dialectique que je comprends comme un processus de subjectivation toujours en devenir. Par ailleurs, la Terre ne se réduit pas à un support, matière inerte, réservoir de ressources minérales sans vie, comme le définissent encore nos manuels scolaires. Pour ses habitants aborigènes, la Terre est au contraire embodied, incorporée, incarnée par eux, les humains et les non-humains qui appartiennent à la Terre, sont en ce sens une extension vivante de la Terre. L'anthropologue brésilien Viveiros de Castro a appelé perspectivisme amérindien leur perception multinaturaliste de plusieurs natures. Si la théorie perspectiviste fut popularisée à la fin des années 90 par le tournant ontologique en anthropologie, bien des anthropologues avaient déjà tenté de faire passer des cosmovisions complexes, inspirées des peuples avec lesquels ils ou elles travaillaient. Nous fûmes nombreux à être transformés du dedans, par l'expérience du terrain qui a bousculé nos catégories et nos manières d'agir dehors. Dans les termes de Morton Robinson, nous avons été incorporés par le terrain et ses habitants. on nous a reproché de devenir natifs, going native, et de manquer de distanciation scientifique, comme l'exige une posture supposée objective. Et pourtant, ce sont souvent les anthropologues témoignant d'expériences d'immersion et reconnaissant les objets de leur recherche comme sujets qui aident à réfléchir aux alternatives à inventer pour empêcher que le monde continue d'exploser et d'imploser dans sa course effrénée. Povinelli écrit « L'attribution de l'incapacité de différencier les genres de choses qui ont un pouvoir d'agir, agency, une subjectivité et une intentionnalité du type qui émerge avec la vie est au fondement de ce qui a assigné divers peuples colonisés dans une mentalité prémoderne et une différence de la post-reconnaissance. » Citant Foucault, Deleuze, Serre ou Rancière, elle poursuit une critique de tels préjugés évolutionnistes, tels que recadrés par l'État dans certaines politiques de la différence et du multiculturalisme. Sa monographie, Labour's Lot, The Power, History and Culture of Aboriginal Action, analysait en finesse le rapport au travail et à leur milieu de bord de mer des femmes de la communauté aborigène de Beluen, prises dans l'étau des conflits incessants avec le gouvernement australien pour le contrôle des terres. Povinelli dit que les concepts de géontologie et de géontopouvoir, comme détruisant toutes les formes du vivant dans une logique de position entre le capital de la vie, le bios, life, et le capital de non-vie, non-life, le géos, ont émergé de l'espace où ces amis aborigènes, confrontés aux effets du libéralisme tardif, sont contraints de manœuvrer. Ces concepts l'aident à éclairer cet espace contracté, cramped, comme une crampe, dit-elle. Virus et esprit des morts. Troisième figure de Povinelli. Le désert est-il lisse ? Dans Mille Plateaux, Deleuze s'accorde avec Guattari sur le fait que la présence de la métallurgie chez les peuples nomades du Sahara, Amazir, les hommes libres en Touareg, invite à penser cet espace comme ni juste lisse, ni juste lisse et nomade, où les points sont subordonnés au trajet, d'où des valeurs rythmiques et de l'espace haptique, ni strié par des hiérarchies sédentaires, l'espace optique, mais plutôt troué, holy. J'ai dit ailleurs que si l'on considère la profondeur, à la fois géologique et narrative, des sites sacrés, aborigènes, leur désert est aussi troué. Ces trous ne sont pas a priori de la non-vie opposée à la vie, mais plutôt comme des portails dont les traces s'ouvrent vers des espaces-temps différents. On peut parler de plurivers ou multivers en astrophysique, comme le fait Arturo Escobar aussi pour appeler à un peu déconstruire les sciences sociales de cet universalisme qui nous bloque le cerveau. Ce sont ces lieux, événements aborigènes, qui aujourd'hui sont le plus menacés par les multinationales qui trouent le désert en important leurs stries diverses de puissance en conflit et de catastrophe. Pour Povinelli, la stratégie de l'animiste face au désert est de refuser l'opposition entre vie et non-vie. Elle donne l'exemple de Chipel, une jeune fille qui s'habillait et chassait comme un homme et refusa de cuisiner du gibier pour un vieil homme. Lorsque ce dernier apprit par un oiseau qu'elle était une femme, il la provoqua dans un combat qu'elle perdit, devenant un trait de la topographie. La crique, le petit ruisseau, qui divise deux points côtiers et marque la frontière entre deux groupes de langues différentes. Cette mutation morphologique ne l'a pas tuée, dit Povinelli. Au contraire, la transformation lui a permis de persister et lui permettra de le faire encore. Mais cette nouvelle fois, dit Povinelli, elle deviendra peut-être un désert, au sens de Povinelli. En s'asséchant comme cours d'eau, retirant ainsi leurs conditions d'existence à ceux qui l'ont négligé. Povinelli ajoute que les Carabing, les membres du collectif aborigène avec lesquels elle fait des films, envisageaient d'inclure dans leur archive numérique Chipel, la femme oiseau ruisseau, en devenir sécheresse, ce qui serait une autre manière de la faire vivre. Chipel aurait sa propre agency, puissance d'agir, du fait qu'elle est toujours en mouvement, avec des modes d'existence réarrangés, où l'opposition entre vivant et non-vivant n'a plus de sens. Ayant initié divers projets numériques avec les Walpiri du désert depuis le milieu des années 90, j'ai aussi fait l'expérience de la transposition dans les photos, les films et les écrans de ce que les Walpiri appellent Kuowari, les images forces qui s'incorporent aussi bien dans des lieux, des motifs peints, des chants et des récits. J'ai dû par exemple faire développer un outil numérique pour cacher au fur et à mesure de leur décès les images des défunts sur le programme des ordinateurs installé à l'école de la Djamano en 97. Pendant des années, je négociais quelles images et sons pouvaient être diffusés afin de respecter le tabou des morts pendant le temps du deuil, ou le secret des choses réservées soit aux hommes, soit aux femmes, ou aux seuls initiés des deux sexes. Ces dernières années, ces tabous n'ont plus la même application. Non pas parce que la culture se délite, mais parce que l'enjeu des images forces est ailleurs. En ce sens, la mort hante la vie. Avec l'hécatombe des suicides de jeunes, voire d'enfants, et de décès par accident, cancer, diabète et autres nouvelles maladies. Par ailleurs, la possibilité de métamorphose des anciennes formes corporelles dans quelque chose qui puisse affecter les vivants est source de grandes angoisses et suppose d'être conjurée, ritualisée, repensée, renégociée. Et il va de même des esprits de la terre, que l'on ne visite pas assez et qu'on se reproche. On les redoute à ce point que parfois on cherche à s'en protéger, tant par des sorts que par la religion chrétienne. Pour certains aussi l'islam. Aujourd'hui, c'est en imprimant les photos des morts lors des funérailles, donc l'inverse de ce qu'on faisait avant, que l'on aide les défunts à trouver leur chemin vers l'espace d'une autre vie. Mais on doit aussi faire très attention aux esprits des morts ou de la terre qui errent en brousse. Toute une population désirante de la force vitale des humains vivants, cherchant à les séduire pour les emporter dans leur espace-temps. En ce sens, je dirais que la stratégie animiste ou totémiste du désert n'est pas tant de nier l'opposition entre vie et non-vie, mais plutôt de constamment rejouer des revirtualisations, cristallisations, dirais-je, de Deleuze et Guattari, entre différents états de vie et différents espaces-temps de leur existence. Cela passe à la fois par des rituels et des dissensus qui peuvent être violemment conflictuels, particulièrement face aux enjeux monétaires des explorations minières qui divisent les gens. Certains se disputent les revenus miniers, alors que d'autres s'opposent aux exploitations, à l'instar de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents qui avaient alerté sur le risque de polluer les nappes phréatiques en creusant trop et trop profondément. Le virus, troisième figure de Povinelli, serait, depuis l'attaque des tours de New York en septembre 2001, associé à l'islam fondamentaliste, mais aussi au mouvement vert radical, dit-elle. Le virus confond et met au même niveau la différence entre la vie et la non-vie, tout en faisant attention à tirer un avantage des plus petits aspects de leur différenciation. Et plus loin, dit-elle, le virus est la figure populaire du zombie. La vie devenue non-vie est transformée en une nouvelle sorte de guerre d'espèces, l'inerte agressif versus la répétition de la vie. La dystopie, qui par manque d'imagination, projette sans cesse le réveil des cadavres mal morts et enterrés, mal ritualisés, maltraités ou mal mémorisés, est peut-être une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes se tournent vers des pratiques spirituelles recomposées. Sans doute est-ce le désir de vivre autre chose qui, sur toute la planète, pousse les jeunes, autochtones ou non, à se mobiliser de plus en plus pour se battre contre l'extractivisme, notamment du gaz de schiste et du nucléaire, ou encore de l'or en Amazonie, autre forme d'écocide actuel qui nous concerne tous par rapport à la Guyane française, avec le mouvement contre l'orpaillage industriel de la montagne d'or, ainsi que d'autres causes morbides du changement climatique qui menacent leur avenir. Pour finir, face à l'alerte d'Elisabeth Povinelli qui dit « Notre lutte a persisté dans un arrangement spécifique, créer des terres perdues, wastelands, et des déserts qui vont annuler notre existence et faire de la Terre une nouvelle Mars, planète », j'ai plutôt envie de croire que les déserts, toujours vivants, se réveilleront contre cet oracle avec l'émergence de l'événement. Comme le montrent les luttes aborigènes et les luttes d'un tas de collectifs à travers le monde, y compris Notre-Dame-des-Landes ici en France, et depuis des mois en France, les carrefours, les marches et les paroles des Gilets jaunes, dans ces lieux qu'on a voulu non-lieux, les carrefours, les ronds-points, qui sont sortis du soi-disant désert urbain sans vie. Merci.